Les communs buzzword.
Je te le garde, Charles.
Là, là.
Hein?
Je peux me mettre là?
Ouais, bien sûr. Vous voulez, je sais pas, on peut se rapprocher, je sais pas, il n'y a pas trop de monde, quoi.
Ça fait venir les gens.
Non, ouais. J'ai dit, je vais peut-être pas me rapprocher,
donc
je touche une personne de plus, j'arrive.
Ouais, là, c'est là.
Il va en avoir des trucs à enlever au début de l'air.
Ouais, c'est vrai que ça va donner plus de travail. Sinon, on peut faire un appel.
Ouais. Comment, comment?
Les communs!
Il faut être plusieurs, il faut être en commun.
C'est bien vu.
J'ai fait venir deux personnes à la maison, leur enfant qui veut jouer au joystick.
Ah oui, oui, là c'est sérieux. Quoi.
Ouais, c'est le joystick, ça c'est.
Moi je suis trop haute sur cette chaise en fait.
Imparable.
Alors, vous voulez qu'on commence? Allez, bah go. Je sais pas si.
Marché.
Allez, si vous voulez. Ouais, c'est clair.
La conférence sur les communs commence.
La mini-conférence. C'est plutôt la discussion. La discussion sur les communs.
La conférence
finale.
Hein?
Hein?
Parce que l'an dernier, c'est lui qui fait ça.
C'est ça. Alors. Yes. Eh ben, je vais commencer. Je voulais parler dans cette petite mini-conférence des communs. C'est un concept qui me parle depuis quelque temps. Sous l'angle, est-ce que c'est pas un peu en train de devenir un buzzword avec des discours depuis cette année, pas mal quoi. Alors moi je suis développeuse, je suis pas économiste ou sociologue, donc il y aura des trucs qui seront peut-être pas plutôt flous, qui seront pas forcément très précis. Si vous êtes avec plus de compétences, vous pouvez aussi rebondir quoi, sur ce que je vais dire, il n'y a pas de souci quoi. Donc, je vais d'abord commencer par donner une définition un peu des communs selon ce que le mouvement des communs a essayé de donner, basé sur les travaux de Elinor Ostrom, qui a été primée, prix d'économie de la Banque de Suède en hommage à Nobel à 2009, raccourci sous le nom de prix Nobel de 2009. Et donc, ces travaux, en fait, portaient sur l'étude d'un grand nombre de petites communautés qui géraient des ressources en commun. Et le principe qu'elle en a sorti, un petit peu, c'est que des communs, ce sont des personnes qui ont accès à une ressource, qui la gèrent de façon collective, et ce sont, ils dictent des règles ensemble pour pouvoir préserver, en fait, et gérer cette ressource. Donc, ça peut être... une zone de pêche, ça peut être un système d'irrigation, un jardin partagé, mais ça peut aussi être une encyclopédie en ligne, comme Wikipédia, ça peut être une base de données géographique, etc. Donc il y a beaucoup de... C'est très très varié, voilà. Et, donc c'est pas seulement la ressource, c'est pas juste le bien commun, c'est aussi les relations sociales autour de cette ressource. C'est aussi un faisceau de droits, c'est pas juste l'exclusivité de la propriété, la propriété, c'est, il y a les droits d'usage, droits de glanage, droits de... Donc il y a plusieurs droits possibles dans un commun. Et donc Elinor Ostrom, elle est un peu dans la lignée des économistes des institutionnels, et elle considère en fait les collectifs et leur mode d'organisation comme des micro-institutions. Donc bon, ça c'est un truc que j'ai à peu près compris, mais peut-être des vrais économistes vous diront mieux que moi, si je ne suis pas. Et on assiste un peu à une renaissance des communs depuis un peu l'avènement d'Internet qui a permis l'arrivée des logiciels libres, de Wikipédia, de projets comme OpenStreetMap. Sans la possibilité de communiquer à distance, on n'aurait jamais pu avoir Linux, par exemple, et donc une communauté qui s'organise autour de du développement du noyau Linux ou de la contribution à une encyclopédie. Il y a aussi, côté universitaire, un peu la redécouverte des concepts de l'anthropologie économique avec MOS et tout ce qui est sur le don, le don, contre-don, donc c'est... je ne suis pas sûre de bien expliquer, donc c'est un peu récent dans mon esprit. Donc le principe, hein, je rappelle, c'est pas de commun sans commoners, et c'est un peu ce que nous construisons en commun. Donc il y a beaucoup d'autres penseurs qui se sont rajoutés, des économistes, des sociologues, qui se sont rajoutés un peu sur ce mouvement-là. Et finalement, on peut trouver du commun un peu dans des tas d'initiatives citoyennes, etc. Et c'est aussi une mode d'organisation qui est différent de la gestion, qui peut être différent de la gestion publique ou de l'organisation en marché, c'est-à-dire l'établissement des prix à l'intérieur d'un marché. Donc c'est un peu une troisième voie, mais ça peut être aussi un peu des deux, quoi. Après, je voudrais vous parler un peu des détracteurs des communs ou bien aussi des gens qui considèrent les communs, mais pas de la même, qui n'ont pas la même vision, tout à fait. On va commencer par un détracteur influent, c'est Gareth Hardin, qui est... je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Ouais. Peut-être tourner le truc, ce sera mieux.
Ouais.
C'est mieux, ouais. Donc Gareth Hardin, il a écrit un article, c'est un écologue américain, il a écrit un article en 1968 et qu'il a nommé La tragédie des communs. Et l'idée, c'était, on imagine un pâturage et puis deux bergers qui ont un troupeau. Mais en fait, leur but, c'est de maximiser leur profit. Alors, ils se disent, mais si moi, je rajoute une bête, je vais gagner plus de profit, etc. Donc, chacun rajoute des bêtes dans le truc. Et finalement, c'est la tragédie. Il n'y a plus de ressources. Et donc, la thèse de Hardin, c'est de dire, il y a la seule bonne gestion, les seules bonnes gestions, c'est soit la gestion en public, soit la gestion en privé. Il n'y a pas de gestion en commun possible. Donc, ça a un peu influencé toute la pensée néolibérale. Des 30 dernières années. Je me suis mis un petit génie des alpages, Barton, mon herbe. Donc en fait, Elinor Ostrom, elle avait répondu à ça en disant que, attention, c'est pas une gestion gérée en commun, c'est une gestion en accès libre. Donc forcément, s'il n'y a pas de règles autour de ça, il peut se passer effectivement une tragédie. Sauf que la gestion gérée en commun, et les gens, ils communiquent entre eux, ils vont pas forcément répondre à leurs intérêts personnels, bien compris, de maximisation du profit. Ils vont peut-être pouvoir édicter des règles ça va mieux se passer. Et tous ces travaux, en fait, ils montrent que là, en plus, que dans toutes les communautés qu'elle a pu étudier, la gestion publique ou la gestion privée n'a pas été aussi efficace que la gestion en commun de ces groupes qui se sont organisés eux-mêmes pour pérenniser une ressource. Vous avez des liens. Les bullshitters de Davos, on va dire, les récupérateurs, on va dire Macron, par exemple, dans son discours à Davos, il a parlé des biens communs. Et en fait, est-ce qu'il parle bien de la même chose que Elinor Ostrom ? On peut en douter. Dans ce qu'il met dans les biens communs, c'est un peu de tout. Alors, le développement durable et le développement économique durable. Ça, d'accord, pourquoi pas, mais c'est vraiment sa vision des biens communs. En même temps, l'éducation et la santé, et en même temps, l'accès au numérique, qui est géré la plupart du temps par des privés, d'ailleurs. Donc youpi, on met tout dedans et ça fait des biens communs. Donc il faut protéger du passager des clandestins. Donc on sent discours à Davos devant des tas de chefs d'État et de grands chefs d'entreprise, de grandes firmes. Il dit, voilà, les biens communs sont en danger, c'est la faute aux passagers clandestins, donc c'est vraiment ce qu'il dit dans son discours. Oui, vous, les grandes puissances, tremblez. C'est un peu Red is Dead. Donc, et alors, il propose des solutions. Alors, déjà, avoir une fixe. C'est Macron qui a proposé ça. Arrête. Ouais, c'est à Davos. Arrêtons.
C'est vrai qu'il a fait ça.
Ouais, ouais. Il a bien promis. Hein.
Ouais, il a bien promis.
Donc, il a bien promis une fiscalité pas trop avantageuse quand même. Taxons les gens de l'Internet. Et en même temps, investissez dans les communs, s'il vous plaît. Donc oui, Monsieur Bolloré, investissez pendant que vous faites du profit sur les pneus ou en Afrique. Si vous pouviez un petit peu investir sur l'éducation, ce serait gentil. Merci, bisous. voilà, vous pourrez retrouver son super discours.
J'ai presque envie de le revoir.
Alors, je l'ai lu. Hein. J'ai pas pu, il est retranscrit sur le site de l'ESIE. J'ai pas pu le regarder. Entendre sa voix, c'est juste pas possible.
Regardez les sous-titres.
Ouais, c'est une bonne idée sans le son, avec les sous-titres, le avec son, les ambiances. C'est peut-être.
La gestuelle est pas mal. La gestuelle
avec les sous-titres, ça passe.
J'imagine. Bref, 45 minutes, c'était un peu trop pour moi, quoi. Alors, comme grand penseur du bien commun, n'est-ce pas, il y avait Jean Tirole, qui est prix Nobel de prix de l'économie de la Banque de Suède de Nobel, enfin, voilà, en 2012, hein, s'il me semble. Effectivement, je n'ai pas noté. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « L'économie des biens communs ». Et alors, pour lui, c'est juste un juste équilibre entre marché et État. Donc, là où le marché est défaillant, l'État devrait intervenir et réguler de façon bienveillante et gentiment. Voilà, donc ça c'est Jean Tirole.
Ça reste un modèle bipolaire.
Hein ?
Ça reste un modèle bipolaire.
Exactement. Donc voilà, la concurrence au sein d'un marché régulé, voilà. Alors j'ai pas lu le livre complètement, par contre je vous conseille la critique de Jean-Michel Servet, qui est un autre économiste. Elle fait, je crois, 5 ou 6 pages, mais c'est absolument... Enfin, ça fait plaisir de lire un article comme ça. Il le descend vraiment bien comme ils sont. Donc, si on peut rester à Davos, c'est ça, en fait. Bien commun en service public. Il y a vraiment une ambiguïté, en fait, chez Tirole, Macron et tous les économistes.
Bien commun, c'est le service public.
Ouais, c'est ça.
Et quoi, ça pourrait pas l'être ?
Du moins, c'est ambigu. Ça pourrait l'être, sauf que les communs, comme ce que, au sens de Elinor Ostrom, ils ne sont pas dans la gestion de services publics, c'est plus une gestion collective. Donc, et l'action publique, elle est juste là pour pallier aux défaillances du marché. Il n'y a pas d'autre voie. En fait, c'est complètement négliger le collectif. C'est un peu une approche, on prescrit notre politique et vous faites comme on a dit, quoi. Donc, il n'y a pas moyen de s'organiser dedans. La preuve, par exemple, à la ZAD qui s'est fait expulser, c'est notamment la ferme des Sans-Noms qui était en mode collectif.
Qui a été expulsée alors qu'il n'aurait pas dû l'être.
Voilà. Parce que ils étaient en train pourtant d'essayer de se mettre en conformité un peu avec le droit, sauf que la préfète a dit non, on ne prend pas de projet collectif. Autre expulsion, c'est la bibliothèque de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que fait une bibliothèque ? Donc c'est un projet collectif, encore une fois, et donc ça ne convient pas dans la prescription de l'État, tel qu'il est aujourd'hui.
L'État qui, justement, avait abandonné cette région-là.
C'est ça.
Le préfet qui avait même voté l'abandon du maintien des infrastructures sur place.
Ah oui, d'accord. Donc bah, moi, je ne connais pas en détail. Elles n'étaient pas entretenues.
Elles n'étaient pas entretenues suite à une note du préfet.
D'accord. Donc l'État, en fait, c'était lui-même désengagé.
L'État
quoi.
S'est désengagé et a dit démerdez-vous.
En même temps, c'est logique qu'il voulait construire un aéroport.
Oui, mais même si tu veux construire, l'État n'a pas le droit de se désengager d'un de ses territoires. Il a quand même des devoirs. C'est un peu comme ça que s'est bâtie la République en France.
L'État doit être présent partout.
L'État est garant de la sécurité de ses concitoyens, par exemple.
l'entretien des routes en fait partie.
Et le 6
ça, ça, ils l'ont abandonné, clairement, dès le début.
Le 6, c'est un peu contradictoire avec
c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est complètement nier le collectif. Voilà, ça c'était pour un peu le côté buzzword. Et alors, il y a des questionnements politiques autour des communs. Il y a des critiques plus constructives qui montrent un peu la limite en fait des travaux de Osram sur les communs, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment attachée sur des communautés de petite taille, localisées, sauf peut-être avec une autre auteure, Charlotte S. Mais ça c'est un autre aspect sur les communs immatériels. Et donc, elle a également pas assez étudié les rapports de pouvoir. Donc il y a une limitation, il n'y a pas une réflexion sur les systèmes politiques qu'on peut mettre en place à partir des communs. Donc c'est peut-être des réflexions à engager pour plus tard, pour plus tard, ou pour dès maintenant. Donc il y a un article sur qui est un peu long et un peu trapu sur de Olivier Westin là-dessus, quoi. Et donc, un peu la question après, l'organisation en fédération, est-ce que ça pourrait être une voie à explorer de mise en fédération de communs, quoi. Donc, voilà. Et merci. Si vous avez des questions...
en fait, comment est-ce que ça pouvait fonctionner avec le public, soit comme complément ou soit comme...
Avec le service public, par exemple, il y a des partenariats, parce que là, je n'en ai pas parlé, mais c'est les modes de financement, partenariat public-privé, ça, c'est des trucs qui sont hyper courants. Et finalement, souvent, le collectif est perdant, parce que les contrats, comme les autoroutes, l'autoroute Pau-Bordeaux, si c'est pas rentable, c'est la collectivité qui va rembourser des choses à l'entreprise. Enfin, c'est pas du tout bénéfique pour le collectif. Et donc, il y a en Italie, par exemple, il y a des partenariats publics communs, donc entre une institution, un gouvernement, une collectivité, et puis un groupe de personnes, une communauté qui gère un commun. Donc, et ça peut aussi prendre la forme des bails emphytéotiques. Comme il peut y avoir, alors je ne sais pas si la chapelle, ils sont en bail amphithéotique, il me semble. Et voilà, c'est des choses amphithéotiques, des beaux amphithéotiques d'ailleurs, on dit. Le principe, c'est d'avoir un bail à assez long terme qui permet à un lieu de se pérenniser, de s'organiser et donc, et du coup, de se développer et de faire vraiment un lieu commun, comme à la chapelle, comme ici, comme voilà. Donc ça peut être.
Absorbé par le service public, mais simplement
plus en mode.
C'est qu'il y ait juste une place,
ouais.
Des communs.
C'est ça. Exactement.
C'est pas incompatible.
Tout à fait, c'est pas incompatible. C'est une question de volonté politique.
C'est non seulement pas incompatible, mais c'est finalement comme ça aussi que ça a marché pendant quelques siècles. Effectivement, au sein des villages, par exemple, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà de façon commune, par exemple les bois, l'accès aux forêts.
Oui, oui, il y a les féodalismes et tout.
Aussi avec l'État, avec des institutions plus grosses, et ça ne rentrait pas en conflit. Aujourd'hui, on est vraiment aussi dans une destruction de ces communs-là aussi. On parle dans les internets, mais ces communs-là, l'accès au pourra pas aujourd'hui, c'est généralement privatisé, alors que c'est absolument pas légal. Les joies de la mairie, on a plus le droit d'aller ramasser les trucs, alors qu'en fait, dans les fermes, on est censé plus loin dans ces communs.
Oui, tout à fait. Ouais. Je n'ai pas abordé l'aspect historique, mais ouais, tu l'as bien expliqué.
Je trouve ça intéressant parce que ça peut aussi s'appliquer finalement au-delà, pour le mettre dans l'espace numérique. On voit que ce n'est pas nouveau en soi, cette logique-là. Elle existe, elle a été expérimentée, on voit ce qu'elle connaît. Donc on pourrait en faire quelque chose aussi dans l'espace numérique.
Et dans l'espace numérique, moi, je trouve intéressant ce qui est en train de se passer avec la fédération, le mode d'action, par exemple, de Mastodon ou Frama, enfin, Diaspora, ou PeerTube, tous ces logiciels qui se mettent, en fait, on gère un commun localement ou avec une communauté thématique donnée. Et puis, on se met en lien avec des tas d'autres communautés thématiques ou locales. Voilà, et donc, il y a l'aspect technique là-dessus.
Tu montrais dans ta présentation que ça avait été surtout étudié sur des aspects très locaux.
Ouais.
Et finalement, je pense que c'est aussi ce qui fait la force des communs, c'est à part que ça marche bien, parce qu'il y a peu de gens qui vont interagir pour prendre soin d'un commun, donc les échanges sont facilités. Parce qu'on, finalement, on n'a pas discuté avec tout.
Ouais.
Permet de construire tous ensemble quelque chose qui est beaucoup plus résilient et même qui peut se casser la gueule sur un point sans finalement mettre en péril le reste.
Le fait qu'il y ait peu de gens, je ne sais pas si c'est une condition de ça ou pas. Si on prend Wikipédia, il y a des milliers, des milliers de gens qui contribuent, tant ça reste un commun parce que c'est une espèce numérique qu'il faut avoir plein de gens.
Dans le cas de Wikipédia, je pense que c'est peut-être le fait qu'il y ait des rôles bien délimités, bien définis, et qui fait que ça fonctionne. Il y a des problèmes, ce que Ostrom aussi elle explique, les cas où ça a marché, voilà les conditions qui ont visiblement permis que ça fonctionne, et notamment une communauté bien délimitée. Donc, c'est.
Sur Wikipédia, on peut aussi une granularité où typiquement les gens qui s'occupent de la section, histoire, sont un petit groupe qui vont surtout intervenir dans la section histoire,
ouais,
qui vont
aussi
entre eux, mais qui vont avoir peu d'interaction avec les gens qui sont dans la section mathématiques, par exemple. Donc, même si effectivement ils font partie d'un grand tout, mais le fait que c'est. Bon, à chaque fois on descend, on trouve des petits groupes,
oui,
je pense que ça fait partie aussi.
Ouais. C'est juste des discussions entre 400 personnes, sauf les articles très à troll. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il y a pas mal d'organisations qui s'organisent un peu en mode fédération, comme la fédération des fournisseurs d'accès associatif. Il y a des fournisseurs d'accès locaux, et puis ils s'organisent en fédération pour pouvoir répondre à des mêmes visions. Ils partagent les mêmes valeurs, mais pas la même organisation. Il y a les chatons, collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est tout dit. Donc ça, c'est plusieurs entités. Ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être juste une personne. Et le fait qu'ils partagent une même charte, donc ça, c'est pas forcément dit dans les travaux d'Ostrom, mais d'autres gens ont dit, oui, la charte, c'est important, en fait, dans la constitution d'un commun. Et pareil, ils fonctionnent en fédération. Alternativa, moi je suis dans un groupe local Alternativa, on fonctionne un peu en autonome en groupe local, puis il y a une espèce de fédération à la tête, quoi. Donc c'est vrai. Ouais. C'est intéressant de ce point de vue-là, quoi. Ouais.
Budget participatif, on voit, je pense, pour faire le lien entre les collectifs et les collectivités.
Ouais.
Et en même temps,
tout à fait,
on a aussi un énorme rôle citoyen pour finalement éduquer nos élus proches, c'est-à-dire les maires, les élus qui sont vraiment sur notre territoire, à toute cette gestion-là qui est parfois oubliée, pour leur faire prendre conscience qu'il y a souvent plus d'intérêt gérer avec des communs qu'à gérer dans un mode capitaliste classique. Je vois par exemple, chez moi, on a une commune qui est très dynamique, ils ont trouvé du financement, ils ont monté un superbe hackerspace, c'est vraiment avec des belles machines. Et leur but,
Ouais.
Et, et là, vraiment, quand j'entends ce genre de choses, je me dis, mais là, on a
vraiment
des scènes, nos élus ont parlé.
C'est mon chiffre.
C'est le plus bel exemple.
Ouais.
Ouais, de
la richesse.
Ah bah oui, Orange.
Orange, ça a été donné au
la SNCF en ce moment.
Oui, EDF.
EDF.
Même au sein de l'administration, en fait, tu as des idées qui émergent et quand même, il n'y a soit pas assez de budget, soit ils n'ont pas les supports.
Donc ça va en mode entreprise.
Mais même des trucs de développement, tu vois, genre, ils n'ont pas assez de supports pour la technique. Donc en fait, ils les externalisent à des startups qui, eux, sont capables de les prendre en charge. Mais sauf que la richesse vient de la ville,
ouais.
Vient de, du truc public. Et des fois, ils passent un an. Enfin, moi, j'ai vu à la mairie de Paris, ils passent un an à monter un projet qui vient de l'intérieur et ils investissent dedans, ils mettent de l'argent dedans. Bah derrière, ils n'ont pas forcément autant les moyens budgétaires, etc.
Pour la mise en œuvre.
Ils donnent aux startups, quoi.
C'est un budget fonctionnement, c'est pas là, en fait, le budget d'investissement.
C'est même pas forcément la faute des gens qui sont des pions au sein de l'administration et qui, en fait,
mais c'est ça. Il y a aussi un problème aussi sur le mode de financement subvention. On est passé d'un mode de financement en fonctionnement, sur les budgets de fonctionnement, effectivement, à un mode de financement sur projet. Donc on perd une énergie folle à monter des projets pour avoir une bourse de machin ou une subvention. Et finalement... Ouais, c'est exactement. Elle est pas comptabilisée. Et il faut remplir des dossiers de subvention phénoménaux, quoi. Et finalement, pour pas énormément de choses. Donc, et du coup, la pérennité des projets, elle se fait plus du tout. Donc, ouais.
Tant que c'est un peu expérimental, on ne sait pas trop si ça va marcher ou autre.
Ouais.
Allez-y, c'est tout. Ouais. Quand ça marche, hop.
Ah, c'est sérieux, on va reprendre la main, on va le passer à machin, on le connaît.
Ça se développe
énormément. Parce qu'il y a aussi du manque de connaissances. En fait, parfois, c'est juste de l'incompétence de gens qui ne connaissent pas ces systèmes-là et qui voient le seul truc qui existe, c'est les startups.
Ouais.
Effectivement, mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui le capitalisme utilise les citoyens pour faire les pour débroussailler les problèmes, et quand ils voient que tout se rend compte, ils le prennent en compte. Parce qu'on voit bien toutes les universités, elles font de la recherche, pas fondamentale, mais elles font des recherches appliquées maintenant, parce qu'elles sont subventionnées justement par les entreprises, parce que l'État ne les finance plus, et donc c'est la contrepartie. Donc elles travaillent, mais en fin de compte, leur recherche qu'elles font, et bien c'est toujours, si ça fonctionne, et bien c'est de suite pris par une entreprise qui met dessus le brevet et qui ensuite l'utilise de manière capitaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se l'approprier.
Ça, c'est une enclosure, ouais.
Et c'est vrai que c'est nous, en tant que citoyens, on ne doit pas participer à ça et dire qu'on ne veut pas de ce type de modèle. C'est vraiment le modèle de société qui fait qu'on est mal, on retire un peu les richesses que l'on a créées.
Spoiler.
Si on se met du côté.
Pas mal.
J'ai pas compris, vrai.
On nous spolie. Non.
Mais spoil, je comptais, mais.
Spolier. Alors, ça. On s'accapare un bien qui nous est commun.
C'est pas quand tu fais un travail et que je fais, ah, ça a l'air intéressant. Et qu'après, moi, je vais le déposer, je vais spoiler tout.
Ah, d'accord.
C'est le. Voilà. Arlette, si tu nous entends.
Non, à la base, en fait, si on se met du côté aussi des acteurs, des gens qui essayent d'innover et tout ça, c'est pas. C'est peut-être pas facile non